France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Maria João Pires. Je suis née à Lisbonne le 23 juillet 1944. Et j'ai essayé de vivre jusqu'à présent, guidée par l'art en général et la musique en particulier.
Vous allez avoir un parcours du côté de l'école qui, là, est très conventionnel. Vous allez aller à l'école de façon...
Pas très conventionnel, parce que j'ai fait l'école et le conservatoire en même temps. Le conservatoire était un vrai quartier général de la dictature. C'était une horreur. Zéro liberté, c'était horrible, ça, c'est un mauvais souvenir.
Les professeurs, je crois que vous avez été élève de Campos Coelho, c'est ça?
Oui, mais je n'ai pas de bons souvenirs. Je pense que la raison principale, c'est que c'était quand même un homme du conservatoire, de la dictature, donc il n'a pas été... Et puis j'avais des professeurs pour les autres matières, certains, j'ai des bons souvenirs, d'autres pas très bons. Mais de l'école en général, c'était horrible.
C'est ça, vous diriez qu'en termes de professeurs, ceux qui vont rester, c'est plutôt les professeurs après que vous allez rencontrer. Il y a une figure qui est la figure de Francine Benoît.
Oui,
c'est une femme qui était née à la fin du 19e siècle. C'est aussi une autre époque, une autre génération.
Francine Benoît, elle m'a guidée aussi au niveau humain. Elle m'a appuyée. Elle était complètement communiste. Et puis, elle était amie des compositeurs et des musiciens portugais à l'époque qui appartenaient à ce, pas à un parti, parce que le parti n'existait pas, mais à ce groupe de gens qui désirent autre chose que cette dictature et qui s'identifient au communisme, on peut dire comme ça. Ils n'étaient pas communistes, ils s'identifiaient à un idéal. Et ce qui, pour moi, a été tellement important chez Francine Benoît, c'est ce côté humain de façonner notre caractère, d'être utile à la société, d'avoir son identité, mais se mettre au service, d'être toujours honnête, de ne jamais magouiller la vie, ni les choses, ni autour. Ni... Cette honnêteté intellectuelle était tellement forte chez elle, qui m'a beaucoup, beaucoup influencé dans le bon sens.
Dans des années où on se construit, parce que là, vous avez une douzaine, 14 ans, quelque chose comme ça.
Oui,
aussi.
Même moi, j'ai commencé avec elle, j'étais encore plus petite, je devais avoir 10 ans, entre 10 et 17 ans.
Ouais. Et elle enseignait la théorie musicale, la culture, la composition, parce que ça a été le professeur d'Emmanuel Nunes, par exemple, également, je crois.
Elle a été professeur d'Emmanuel Nunes. Et d'ailleurs, Manuel et moi, on était collègues, on se rencontrait quelquefois chez elle. Elle n'était pas professeure au conservatoire, elle n'a jamais été admise au conservatoire. Elle était professeure privée.
Et vous, le rapport à la composition dans ces années-là, vous qui apprenez l'harmonie, la théorie, vous aviez un rapport au piano, Maria João Pires, aussi de vous mettre au piano et
de composer. J'ai jamais été attirée par la composition, vous voyez, c'est quelque chose qui m'a... J'aurais pu, parce que j'avais quand même, au niveau de la composition, des bons professeurs. Et surtout Francine Benoît, et plus tard en Allemagne. Mais... J'ai jamais été attirée par ça. C'est comme quelqu'un qui écrit ou quelqu'un qui devient acteur. Moi, j'étais toujours l'acteur. J'étais toujours celle qui aime interpréter. La composition, bien, j'étais pas très bonne élève parce que ça m'a jamais passionnée. J'aimais bien certains côtés de l'analyse, certains côtés, mais que certains. Quand le professeur arrivait à vraiment transformer ça en quelque chose de créatif, dès que je voyais les choses devenir théoriques, je me lassais. C'est drôle parce que à l'école, j'aimais les sciences beaucoup plus que les lettres. C'est bizarre, mais je crois que ça dépend aussi de vos professeurs.
Joao Pires, les premiers pas que vous faites sur scène, je crois que vous êtes très petite, toute seule comme en concerto. Quel souvenir vous avez de vous, enfant, véritablement, dans ce rapport au public?
Ça n'a jamais été une passion, jouer en public. Je voyais les choses un peu... Je faisais ce qu'il fallait faire. J'aimais jouer le piano et puis on m'a mis sur la scène. C'était mon professeur, là, Campos Coelho. Et lui, il avait un rêve de me mettre sur scène et de me faire jouer, lui jouer avec, deux pianos à la fin du concert et tout. Donc, il avait ses vrais désirs qu'il transposait en moi. Et moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé ça. Et je me souviens d'être un peu avec tous ces gens qui venaient me toucher, me embrasser, me dire des choses que je ne comprenais pas ou que je croyais bizarres. Ouais, tout de suite, j'ai senti et compris, en étant enfant encore, qu'il y avait une confusion dans la tête des gens et de certaines personnes du public qui n'avaient rien à voir avec la musique, qui avaient à voir avec autre chose. Et qui était du domaine plutôt du succès, de briller, d'être... J'ai rien contre ça, vous voyez. Les gens pensent que moi, j'aime pas les gens puissent avoir du succès. Ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est la confusion qui me dérange. En fait, c'est mélanger les deux. Les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
Et le désir de musique, vous, Maria Joao Pires, il s'est imposé très jeune.
Ce désir de musique était très fort.
Et vous avez su à un moment précis que ce serait votre vie ou finalement c'est la vie qui a fait que c'est devenu votre vie?
Je vois très bien ce que vous voulez dire et je me pose souvent des questions par rapport à ça. Je me demande si ça a été ma vie. Je crois que ça a été partie de ma vie. Ça n'a pas été ma vie. Et même la musique, ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas dire que j'ai dédié ma vie à la musique. Non. Sinon, je ne serais pas là où je suis. Je serais à faire autre chose, probablement dans la musique. J'ai pas dédié, même au piano, j'aurais eu beaucoup plus de répertoire, beaucoup plus de recherches, de choses. J'aurais fait plus que ce que je n'ai fait. Parce que la musique a été toujours partie de ma vie. On peut pas dire amateur, parce que j'ai pas été amateur, je suis pas amateur. J'aime bien approfondir ce que je fais et j'aime bien le faire de la meilleure façon possible. Mais ça a été une partie et pas la totalité. Sans musique, j'aurais pas vécu probablement parce que ça fait partie de ma vie. Mais sans jouer en public, j'aurais très bien vécu. J'aurais peut-être fait plus de musique comme amateur. Ça veut dire j'aurais abordé d'autres répertoires où vous avez pas besoin de perfectionner les choses, où vous pouvez les faire bien mais sans plus. J'aurais fait d'autres choses. Mais ma vie serait plutôt dédiée à l'idée de la terre, de la cause de l'environnement et des gens, dans le sens où je pense que j'aurais toujours aimé faire des choses qui servent aux gens. Un peu comme ça, qui peuvent servir. C'est pas aider, mais c'est qui peuvent servir. Qui peuvent être utiles. J'ai un côté utilitaire qui est très fort en moi. J'aime toujours faire ce qui est utile.
Les grands entretiens, Judith Chen.
Partons, si vous le voulez bien, pour l'Allemagne, Maria Joao Pires. Vous obtenez une bourse, vous obtenez un passeport, ce qui est quand même, dans le Portugal de ces années-là, extraordinaire.
Ouais.
Comment vous vivez ce moment où vous avez 16-17 ans, où vous quittez aussi votre grand-père ?
J'avais décidé d'étudier la médecine, parce que c'était aussi une de mes passions, j'aimais beaucoup. À l'époque, ça avait une signification très différente de ce que ça peut avoir aujourd'hui. C'était un métier plus du domaine de la mission, peut-être de la recherche. La vocation, c'était la vocation. Et j'avais senti cette vocation, déjà plus jeune. Et je voulais... Et puis, mes amis, pas tellement ma famille, mais mes amis... On dit non, c'est pas possible, faut que tu ailles et tout.
Et parce que vos amis, ils voyaient la musicienne en vous et ils trouvaient quelque chose d'exceptionnel à cela ?
Il y a dû avoir quelqu'un qui a fait une mission impossible pour que j'ai un passeport, mais j'ai jamais su qui c'était et comment ils ont réussi. Alors, on a dit, si j'ai une bourse, j'étudie pas la médecine et je vais en Allemagne. Si je n'ai pas de bourse, je reste.
Comment vous le prenez, le coup du sort, si je puis dire ?
C'est le sort, oui. Je le prends comme le destin.
Vous vous retrouvez en Allemagne, à Munich.
Oui, c'était dur, oui. C'était très
dur. Sans parler la langue ?
Oui, j'ai appris très vite. Mais c'est un âge où on apprend très vite. Et j'ai commencé à lire en allemand. J'ai lu tous les classiques et tout en Allemagne. C'était une influence très positive, mais très dur au début. C'est, je passe d'un quartier général d'une dictature et je vais à Munich, au quartier général de Hitler. Donc, et je ne l'ai pas su, parce qu'on a dû le cacher, on n'a jamais parlé de ça. Et je ne l'ai su que quand j'ai quitté l'école, à Munich, la Musikhochschule. Bien, c'était après, non ? C'était à l'époque... Déjà de la démocratie en Allemagne et tout, mais...
Mais les stigmates étaient encore... Les
stigmates étaient là, très forts, oui. Donc, j'ai pas de très bons souvenirs d'école. Bien qu'à Munich, j'ai quand même eu, au niveau de toute l'information que j'ai pu avoir, de mes professeurs et tout, j'ai quand même un bon souvenir, parce que j'ai appris énormément de choses. Et c'est une école qui m'a marquée par son, aussi son passé, sa tradition... C'était une école qui avait en soi la grande rigueur et la grande liberté. Donc, dans la musique, je parle. C'est une chose qui m'a toujours frappée et qui est toujours aujourd'hui un centre d'équilibre pour moi. C'est dans la musique, avoir la grande rigueur par rapport à ce qui est écrit, en même temps que dans cette rigueur, on trouve une grande liberté. Ça m'a guidée beaucoup.
Dans ces années en Allemagne, il y a peut-être aussi une sorte de hiatus où, entre l'école, l'enseignement que vous recevez et puis la vie quotidienne aussi en Allemagne.
Oui, et j'ai eu une vie quand même dure parce que j'ai dû travailler. Ma bourse était vraiment pas suffisante pour pouvoir survivre. Et puis après, c'est arrêté. J'ai dû vraiment travailler. Je faisais ménage dans la maison. C'était dur parce qu'il y avait un certain mépris. C'est l'Allemagne, c'est pas un petit pays, c'est l'Allemagne avec toutes ses caractéristiques, ses bonnes choses et ses mauvaises choses. Mais les gens méprisaient beaucoup les étrangers et surtout les gens du Sud.
Vous y passez combien de temps en Allemagne alors ?
6 ans, 7 ans. presque 7 ans. Ça m'a beaucoup marquée. J'avais la chance d'avoir beaucoup d'énergie, donc beaucoup de force physique, et je pouvais travailler, faire le ménage chez des gens pendant 5 heures, et après aller à l'école, et après donner un concert, travailler le piano, faire. Je pouvais faire un peu, gérer les choses de façon à pouvoir. Et je pense que c'est pas mal. Aujourd'hui, on voit les gens très, très, très gâtés. Et je ne suis pas une moraliste à point de dire « Oh, quelle horreur !» Pas du tout, mais je me souviens de cet effort aussi physique d'apprendre aussi les choses pratiques de tous les jours. Nettoyer, laver, repasser, apprendre à tenir les choses de façon à ce qu'on puisse vivre agréablement. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui ne savent même pas ranger leur chambre, ne se font pas à manger. Donc, c'est quand même extraordinaire de voir que les gens se sont détachés des besoins quotidiens, de la vraie vie. Ne pas parlant que aujourd'hui, on ne sait pas planter des salades ni se faire à manger avec la terre un bout de terre. C'est terrifiant pour moi. C'est quelque chose qui me fait peur.
Un parcours en Allemagne, parce que vous arrivez à Munich où vous avez un premier professeur, Rosel Schmidt.
Rosel Schmidt, oui.
Qui était... Comment vous pourriez nous décrire cette...
C'était une femme, une vraie Allemande wagnérienne. D'ailleurs, je regrette, elle est morte très jeune, juste peu de temps après que j'ai quitté l'école. C'était une amie de Kempf. Et nous, on allait quelquefois chez Kempf pour avoir
des cours.
Vous avez souvenir ? Pas tous, mais seulement moi et un autre collègue. Quelquefois seulement moi. Ah oui, j'ai des souvenirs extraordinaires.
Comment il était ?
Il était très doux, très doux. Une personne très gentille. Et c'est un homme sage qui disait que le nécessaire. Et Rose Schmidt était une femme très intervenante, très dure, qui avait un peu une espèce d'hystérie dans son caractère, qui se fâchait pour rien. Et ça rendait les cours un peu difficiles, mais j'ai rapidement compris qu'il fallait rester calme et puis voilà, ne pas réagir. Mes collègues, même les garçons pleuraient facilement avec elle et tout. Elle pouvait ouvrir la fenêtre et jeter la partition parce qu'on avait fait une faute de texte.
Et vous, comme sur les plumes d'un canard, vous laissiez passer l'orage?
Oui, j'ai toujours eu cette tactique. Ça m'a aidée. Et j'ai pu avoir le mieux qu'elle avait à donner.
Et quand vous alliez voir Wilhelm Kempf, c'était quelle idée? C'est que pour Rosel Schmidt, c'était le garant de quelque chose?
Oui, exactement. Ça, c'était beau. C'était une façon très intelligente de faciliter la transmission. Parce que la transmission, elle ne peut être qu'orale, elle ne peut être que vivante. Ça, le problème, c'est que si on essaye de mettre les choses dans les petites boîtes, on n'y arrive pas. On arrive à beaucoup d'informations, mais il n'y a rien qui soit.
Et pour vous, Maria-Jo Pirèche, Wilhelm Kempf, Backhaus, tout ça, c'était des disques que vous aviez aussi?
Non,
c'était...
J'ai écouté tous les artistes qui habitaient encore en Allemagne. J'ai écouté tout le monde. J'ai encore écouté des concerts d'Elinaï, Backhaus plusieurs fois. Voilà, avec Rosel Schmidt, on avait les concerts permis et puis les interdits.
Il y avait quoi comme interdit?
De temps en temps, on aimait bien aller écouter du jazz ou quelque chose comme ça. Et elle n'aimait pas, ou des artistes qu'elle trouvait qu'il fallait pas aller.
Période-là en termes de répertoire, parce que vous avez votre répertoire, vous dites souvent d'ailleurs que ce répertoire est aussi inhérent à votre morphologie, avec
oui,
des
totalement.
Mains voilà,
ça,
qui sont petites.
Oui, oui.
Mais est-ce que vous avez souvenir aussi de compositeurs plus ou moins liés à un professeur?
Chez Rosel Schmidt, on apprenait à jouer du Beethoven. Et ça, c'était 90% de notre travail. Et après, on avait du Bach, on avait des compositeurs français un petit peu, mais c'était un peu comme faire le bouquet après, arranger le bouquet de fleurs. Parce que la base, il y avait... Moi, j'ai fait mon travail final d'histoire sur Brahms, parce que j'étais passionnée par Brahms totalement et je ne pouvais pas jouer. Et puis, on avait... très peu de musique russe, même si on avait, mes collègues en avaient plus que moi, parce que moi je pouvais pas à cause de la main. On avait quelques compositeurs contemporains, mais tout ça par petite dose. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, chez elle, j'ai appris une chose que je savais comme enfant, parce que j'avais découvert, c'est l'utilisation du corps pour le timbre, pour la couleur, pour la musique. Et l'inutile du travail digital quand il n'est pas accompagné. Et ça, j'ai confirmé. Parce qu'en étant enfant, petite, j'avais besoin du corps pour jouer du piano. Donc j'ai un peu appris comment on l'utilise. Mais avec Rosel Schmidt, on a vraiment eu cette école globale qui était...
Un son qui part des cuisses.
Oui, absolument. Les cuisses, les jambes, le ventre, les pieds, le corps... Globalement, le souffle, la respiration, les mains sont d'une certaine façon très stériles à la musique. Tandis que le corps est très fertile, ça veut dire c'est un champ où tout peut se développer, tout peut arriver, tout peut être recréé, tout peut être proche d'une vérité, d'une source, parce que le corps est comme un transmisseur de quelque chose, parce que c'est nous, c'est notre instrument.
C'est comme si le corps devenait l'instrument dont la musique jouait.
Oui. Et s'il y a transmission, s'il y a une source, s'il y a une source qui inspire les compositeurs, s'il y a une source qui est la source de notre univers, de notre nature, de quoi est-on fait? Et cette source, elle existe forcément. C'est pas pour une lubie intellectuelle que Mozart, Beethoven ou n'importe quel grand compositeur a bâti des compositions qui ont un tel impact sur le monde. C'est pas possible. Donc, ils ont eu un accès à une source. Et cette source, c'est leur nature, notre nature. Donc, je pense que on peut donner tous les noms. La nature divine, nature universelle, nature... On peut tout dire. Ça n'a pas d'importance, les mots. Le fait, c'est que ça existe. Et pour que ça soit transmis, nous n'avons que le corps comme instrument pour le transmettre.
Thank you.
C'est sur cet extrait de la sonate au clair de lune de Beethoven par Maria Joao Pires que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Maria Joao Pires. Réalisation Perrine Minguy, prise de son Pauline André, mixage Jean-Michel Bernaud, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.